Alors, mercredi 26 juillet, un milieu de semaine fort agréable. Et oui, les vacances qui ont bien commencé si vous venez tout juste d'entamer les vôtres. Une saison estivale que je vous souhaite en tout cas de poursuivre en beauté, malgré un été chaud qui donne froid dans le dos un peu partout à travers le monde. Des étés qui, de plus en plus, sont appelés à nous faire vivre des événements météo extrêmes. Mais la créativité, la volonté de se rassembler, de partager, de se retrouver, se ressent un peu partout et notamment dans les différents festivals. Et ce désir de partager et de communiquer, c'est aussi pour nous, à Canal M, le désir de parler de ceux qui ont aussi un grand besoin d'inclusion, qui ont besoin de se faire entendre et de travailler aussi. Alors c'est ainsi que chroniqueurs et invités se partagent le micro de notre beau rendez-vous estival entre midi et 13h. Ici Chantal Lavoie, voici M l'été. Et aujourd'hui à l'émission, trois jeunes femmes d'origine haïtienne prennent la parole avec humour pour dénoncer le racisme et offrir une tribune à leur communauté. Black Girls from Laval, nous allons les retrouver au cours de l'émission. Notre chroniqueuse Élisane Pellerin, qui vient nous parler chaque semaine de sujets liés à des situations de handicap, viendra cette fois nous parler de l'intégration à l'emploi des personnes, justement, en situation de handicap et de l'exemple du groupe TAC. Voilà, et mais d'abord, un festival qui a été une pépinière de nouveaux talents qui occupe une place à part au Québec et dans la francophonie en général, le Festival en chansons de Petite-Vallée. J'accueille Alan Côté, qui est à la tête de ce festival unique depuis 40 ans. Bienvenue à M l'été. Voilà, donc on va commencer de façon fort réjouissante avec Alan Côté. Alan Côté qui est à la tête de ce festival en chansons de Petite-Vallée qui existe depuis 40 ans. Lui-même, auteur, compositeur, interprète, et puis bon, qui sera en spectacle durant ce festival. Bonjour Alan.
Bonjour, bonjour.
Alors, beaucoup, bien sûr, d'excitation, j'imagine, de votre part. Je vous ai entendu ici et là en entrevue et puis ben, vous étiez vraiment... réjouis de votre programmation à venir. Alors, d'abord, on va parler bien sûr, de tous ces spectacles qui s'en viennent, mais on va parler de la mission première du Festival en chansons de Petite-Vallée. Vraiment, vous avez été, comme je l'ai dit tout à l'heure, une pépinière de talent. Et en fait, pour la relève, ça a été vraiment... vous avez vu naître de grands artistes chez vous.
Mais effectivement, donc, c'est parti de... Au début, c'était un concours d'amateurs, finalement, puis un concours après pour les artistes émergents. Puis après, ben, on a enlevé ce concours-là tranquillement. Puis en 2009, donc, il n'y a plus de concours, mais il y a une sélection d'artistes. Et après, ben, on s'est mis à... Ben, ça a grossi. Au début, c'était que le concours. Après ça, avec un artiste parrain, au début, qu'on disait. Maintenant, on dit passeur. Mm-hmm. Et donc, il y avait toujours un spectacle en hommage à cet artiste-là. Qu'on continue de faire cette année, donc c'est un hommage à Richard Séguin et Florent Volant. Et puis, donc, il y a une programmation qui, au cours des années, s'est agrandie. Le festival dure 10 jours, parce qu'au début du concours, ça durait 10 jours, puis on a gardé tout le temps la formule 10
c'est
jours.
C'est ça. Et
on
cette année...
On s'est mis à faire des spectacles entre deux, puis là, cette année, on est à 60 spectacles.
Eh, quand même. Alors, c'est du 28 juillet au 5 août. Alors, justement, parlons de cette notion de passeur, finalement, parce que vous avez des jeunes qui vont, suivre une sorte de formation, en quelque sorte, auprès de ces gens, ces fameux passeurs.
Ben, en fait, les passeurs sont plus des porte-parole. Ils sont pas des formateurs comme tels. Et on a un moment privilégié avec les jeunes artistes.
Là. Oui, bien sûr.
Mais
oui.
C'est plus autour d'eux qu'on échafaude la programmation. Comme par exemple, cette année, il y a beaucoup de place aux artistes autochtones. Mais il y a tout un accompagnement pour les artistes qu'on appelle les chansonneurs. Donc, c'est un dispositif qu'on appelle les escales en chansons de Petite-Vallée. Ça s'étend sur une période d'un mois. Habituellement, c'est un mois en continu, mais là, comme le festival a été déplacé de place pour une première année, car on devait être en construction, puis on ne l'est pas, mais...
Oui, c'est ça. Vous allez m'en parler après, mais c'est ça, oui.
C'est ça. Ouais. Puis donc, c'est un processus qui commence à Notre-Dame-des-Prairies, près de Joliette. On est là pendant une semaine avec des musiciens, formateurs, avec Marie-Claire Séguin qui est là aussi, comme avec Jean-Luc Étier, qui font... vraiment une formation sur le sur le corps et sur l'interprétation des chansons, sur le texte et tout ça. Et après, on a fait les francopholies avec eux. On est descendu à Québec. Là, à Québec, le spectacle qui avait monté à Notre-Dame-des-Prairies, qui a été fait au Franco, a été fait à Québec. Et là, ils ont monté un nouveau spectacle à Québec avec d'autres formateurs en composition, avec Paul-André Costi, entre autres, et puis Marc Desjardins qui travaille avec Philippe Braque. Et puis là, presque un mois après, ils sont à Tivoli, ils arrivent demain soir, ils sont là pour 10 jours. Où ils vont avoir encore du coaching. Et là, ils vont présenter 3 spectacles différents lors du festival, ces artistes-là.
C'est
donc
ça.
Oui, il y a vraiment un accompagnement. Puis, par ailleurs, c'est comme on est rendu vraiment un passage obligé, mais il y a des artistes émergents, certains qui ont passé par chez nous, par nos différents dispositifs, soit le chanson ou les escales, ou d'autres trucs. Là, on fait une rencontre avec l'école de la chanson de Gambie qui s'appelle Chant du voyage. Donc, la plupart ont passé par là, mais sinon, il y en a d'autres émergents qui arrivent d'ailleurs, de d'autres festivals et par d'autres chemins. Et puis, on se fait un devoir d'avoir une programmation très éclatée, très éclectique.
Exact.
Qui met en valeur, entre autres...
Ces jeunes de la relève.
Ouais. Ces jeunes artistes.
Ben voilà. Et c'est ça qui va faire, finalement, les artistes de demain, bien entendu. Alors, c'est ça. Donc, avec des, comme vous dites, des passeurs, ces gens qui vont, évidemment, être très inspirants pour cette relève. Cela dit, juste une petite parenthèse, je sais que le 28 mai dernier, parce que c'est ça, donc, Festival en chanson de Petite-Vallée, c'est toute une communauté, ce sont des gens qui sont très engagés un peu partout, et puis... avec les gens de la place. Et là, vous avez aussi voulu tendre des perches le 28 mai dernier. Vous avez finalement sollicité tout le monde là, pour faire une rencontre, justement, pour parler des enjeux à venir au niveau culturel, oui. Économique de la région, finalement.
Oui, ben en fait, on s'est dit que pour honorer le 40e anniversaire du festival, c'était au Benoît qu'on pétait la roue, puis on faisait juste une fête. Ou bien on en profitait pour faire comme un temps d'arrêt, puis aller prendre le pouls de la population. C'est qu'on a eu une journée de réflexion avec des élus, avec la population, du monde des associations diverses. Et ça a été vraiment une belle réussite, puis un beau tas. Et puis ça nous a servi pour améliorer encore notre organisation pour l'année qui est en cours. Là.
C'est ça, parce que finalement, on sait que les festivals, là, je pense même qu'on avait un article, j'ai vu un article passer là-dessus, là, à quel point c'est un moteur économique pour les régions très important. Et vous êtes quand même un festival phare, bien sûr.
Mais effectivement, on a... depuis la pandémie, je fais une petite digression, on a créé le refrain, le regroupement des festivals régionaux artistiques indépendants, qui a des festivals partout au Québec, qui réunit près de 100 festivals maintenant, et qui fait rayonner nos festivals, les festivals de partout, il y en a, c'est toutes les régions, y compris Montréal, bien sûr, et puis donc des festivals d'art de rue, des plus petits, bien plus petits. Comme le festif, puis comme nous, on est membre de ça, on est dans les plus gros dans ces petits festivals-là. Mais donc, c'est vraiment une communauté qui vient mettre en valeur ce qu'on fait dans nos régions respectives et mettre en valeur toute la production, c'est-à-dire autant au niveau artistique, mais autant au niveau économique. Et puis,
c'est
ce qu'on produit, en fait, les effets qu'on...
toutes les retombées, finalement. Et puis, l'autre jour, je tombais sur une entrevue avec une dame qui s'appelle Denise Lebreu, qui vraiment, elle, a accueilli tous ces artistes. Alors, elle avait toute une mémoire de tout ce qui s'était passé à travers ces années. Elle a toujours été au premier rang, finalement. Et puis, elle a fait partie du conseil d'administration. Mais ce sont des gens, donc, au fil du temps, qui se sont beaucoup engagés. Et les artistes eux-mêmes ont développé aussi un attachement particulier à votre festival.
Ouais.
En raison de tous ces gens.
C'est sûr que Denise, d'abord, c'est ma mère. Puis
oui.
C'est chez nous qu'on accueille les artistes à l'auberge.
C'est vrai.
Puis c'est ça qui a fait qu'on a vraiment les amitiés. Jouer aux cartes avec M. Vigneault, c'est pas rien. Puis c'est ce genre de truc-là. Puis les artistes qui arrivent, les passeurs, les plus vieux, entre autres, qui ont connu l'auberge, puis qui connaissent bien ma mère, avant même de prendre leur hébergement, ils viennent saluer ma mère.
Oui, tout à fait. Alors donc, et puis, évidemment, le théâtre, c'était aussi l'ancienne forge, l'ancienne forge de votre père aussi, hein, je pense.
Mon grand-père.
De votre grand-père, voilà. Alors, c'est vraiment une histoire de famille, au fond. Et là, qu'en est-il, du théâtre? Est-ce qu'on peut penser qu'en 2025, le théâtre sera sur pied?
Je pense que oui. On est confiant. Les signaux sont quand même bons. C'est sûr que c'est une énorme surprise. En même temps, tous les projets d'infrastructure sont augmentés.
Des dépassements de coûts, mais ça, c'est comme inévitable. Ouais.
C'est ça.
C'est ça. Donc, encore plus d'argent.
Après, nous, on ne pouvait plus. Surtout qu'on a mis tous les billes qu'on avait amassés dans la campagne de financement. Puis après, de rester en opération toutes ces années-là, c'est la sixième année qu'on travaille dans un chapiteau théâtre qui a coûté 1 million lui-même, et puis à chaque année qui coûte très cher, et puis c'est pas simple ce qu'on
exactement fait, donc vous avez tenu le fort, comme on dit. Et puis bon, alors on sait que le théâtre avait été incendié en 2017, et depuis vous espérez bien sûr que ce beau théâtre, hein, vous avez tous les plans, tout est correct là, mais je veux dire, c'est vraiment juste qu'il voit le jour. Et puis évidemment, ça vous prend toujours du financement, et puis tout ce qui tarde finit par coûter toujours plus cher. Bon, c'est normal. Alors, belle programmation. Alors, effectivement, à partir du 28 juillet, là, des artistes vraiment de renom, des artistes émergents. Enfin, c'est vraiment une très belle programmation. Alors, parlons-en tout de suite de cette belle programmation. D'abord, on va célébrer, comme vous l'avez dit, il y a les 50 ans de carrière. Michel Rivard, Pierre Flynn qui seront réunis avec Richard Séguin, entre autres.
Oui, bien, écoute, c'est ça, c'est des piliers pour nous qui ont marqué le festival à travers le temps. Ils ont tous été formateurs, passeurs, parrains, ces trois-là, entre autres. Là. Et puis, donc, c'est super important pour moi qu'il y ait donc une marque, un héritage qui soit là avec des grands qui ont construit ce qu'on est.
Exact.
Qui nous ont aidés.
Ouais.
Et puis après, c'est des rencontres de génération. Il y a l'autre génération avec les Louis-Jean, Dumas, Vallière. Et puis, il y a l'autre génération avec Ariane Roy, Caroline Savoie, ma fille Jeanne, qui sont là. Donc, il y a vraiment un bel équilibre, je dirais, entre les générations, puis une vraie rencontre intergénérationnelle et une très grande place, comme je le disais tantôt, aux artistes autochtones avec qui on travaille de plus en plus.
Il y aura cette belle grande soirée, là, finalement, avec Vincent Vallière, notamment. Et oui, c'est ça. Donc, ce sera vraiment ça. C'est je pense que c'est le 20.
En fait, c'est les soirées qu'on appelle les marées d'artistes. Ça,
exact.
Un concept qu'on a développé pendant la pandémie. On a continué depuis à en faire. On en a deux cette année dans la marée du Gars du Lac avec Gab Bouchard, autour de Gab Bouchard, avec Pierre Flynn, Ariane Roy, Caroline Savoie. Et puis la marée de l'Aube avec Vincent Vallière, Dumas, Natacha Canapé-Fontaine, Cannon et puis Sandrine Masse qui est une Huron-Wendat. Donc c'est vraiment, puis c'est des beaux shows. Moi, c'est moi qui ai fait la mise en scène du marée du Gars du Lac. Je suis très fier de ce show-là. Puis l'autre a été fait par Alexia Burgère avec Vincent à Québec. Et puis c'était vraiment des beaux spectacles.
Exactement. Et puis donc, il y a aussi, c'est une soixantaine de prestations quand même, alors il y en a pas mal. Mais également, on a parlé de ces spectacles-là. Il y a également, on sait qu'il y avait Patrice Michaud qui devait être au rendez-vous cette année, mais à la toute dernière minute, pour des raisons de santé, d'ailleurs on lui souhaite un prompt rétablissement, là, c'est Patrick Normand qui va être à la rescousse du festival.
Oui, j'ai appris ça. Moi, j'étais au Festival d'Avignon, en France, lorsque j'ai appris ça. Puis là, j'ai fait le tour beaucoup vite, là, à appeler tout le monde, voir qui était disponible. Et puis finalement, c'est Patrick Normand qui a l'équipe qui ont levé la main, puis qui vont s'en venir. On se souhaite du beau temps, parce qu'on est s'en vient d'un avion pour nos tributaires, mais du beau temps. Là. S'il y a de la brume, s'il y a du brouillard, l'avion ne tire pas toujours à gaspé. Fait qu'on va mettre des chapelets sacrés dans l'air.
C'est bon. C'est ça. Donc, toutes sortes d'artistes. Je vois même Marc Hervieux qui sera là, finalement. Des gens comme Marc, ça, oui.
Qui est devenu un grand ami de la famille, de famille du Festival élargi. Et puis, c'est la troisième fois qu'il vient chanter, mais ça fait 5 ans qu'il vient en ligne. À la pandémie, entre autres, on a fait un spectacle magnifique là, sur un belvédère, sur une montagne. C'était complètement fou à 4 heures du matin. Là. C'est le genre de gars à faire ces folies-là. Puis Marc, ça fait pas de temps. On l'a connu en fait en 2017, l'année que le théâtre a brûlé. Puis il est resté fidèle, il est devenu un grand ami.
Oui, il a été quand même très engagé, oui, c'est ça.
Oui, donc on a des spectacles dans une église. Marc, entre autres, sera là. Philippe B sera là aussi.
Oui.
Puis le quatuor, le quartum, qui sont là, vocal. Puis on a des spectacles dans un hangar à bateau. On a une série de spectacles au déjeuner. Les concerts des lève-tôt, puis on a des concerts des couche-tard qu'on appelle On n'est pas couché, qu'on fait à 22h30. Une série 5 à 7 gratuit. Donc, on a des shows, on a 6 shows par jour.
Oui, Guylaine Tanguay sera là, Grégory Charles, aussi la chorale Les Saisons de Vigneault, hein, pour
oui,
évidemment
en fait,
rendre hommage à Vigneault.
Ça s'appelle Tourelou, une chorale de New Richmond, auquel sont greffés d'autres Gaspésiens. Qui font un grand spectacle qui aura lieu après-demain pour rendre hommage à Vigneault avec, entre autres, des invités comme Marc Hérieux, Louis-Jean Cormier, Richard Séguin et moi-même qui viendront prêter main-forte à la chorale pour célébrer le répertoire de Gilles.
Alors, vraiment beau festival le Festival en chanson de Petite-Vallée, donc édition 2023, 40e anniversaire. Alors, je vous souhaite vraiment un très, très beau festival et puis continuez votre travail. J'invite les gens à aller sur votre site Internet parce qu'on va retrouver plein d'informations aussi intéressantes et puis vraiment voir aussi le rayonnement que vous avez en même temps et au sein de votre communauté. Alors, plein de choses que vous faites à longueur d'année, finalement.
Ben oui, puis si jamais il y a des vacances qui se proposent de façon inusitée et rapide, il y a des billets, sachez qu'il y a des billets pour la majorité des spectacles.
Ben c'est merveilleux. Alors je vous souhaite bonne chance pour la construction du théâtre. On a aussi hâte que vous finalement. Alors on se croise les doigts puis on espère évidemment que vous allez pouvoir ramasser tous les fonds nécessaires pour que ce théâtre voie le jour.
Merci beaucoup.
Au bord du fleuve. Merci, au revoir. Merci, Alan.
Au revoir.
Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Pardon de t'avoir perdu. C'est pas toi, mais moi qui a fait exprès. Pardon, j'ai manqué l'arrêt. Ton visage est caché. T'en rase, tu ne respires plus. Et j'irai voir toutes tes créations, plus croire aux grandes attractions et posséder l'or de faire plus attention. Temps perdu, même si ta route est ardue, allons longer des vins en canot et être comme les cheminots. Acceptes-tu comme j'irai voir toutes tes
de Canen, de Ven en canot.
Ah oui, Canen qui sera au Festival de chansons en Petite-Vallée au cours des prochains jours. Donc, qui commence d'ailleurs ce festival le 28 juillet pour se terminer le 5 août. Et on accueille notre chroniqueuse Élisane Pellerin, docteur en sciences politiques, professeure à l'Université du Québec à Montréal, qui nous parle toujours de sujets en lien avec des situations de handicap. Et elle nous parle de l'intégration à l'emploi des personnes vivant avec un handicap. Bonjour Élisane.
Bonjour.
Alors, comment ça se passe? Comment vas-tu?
Ça va bien, toi?
Ah oui, absolument. Donc, habituellement, tu es en studio avec ton chien Mira, mais bon, alors, il nous manque déjà.
On reviendra.
Mais tu nous manques aussi. Tu nous manques aussi. Mais bon, alors, cela dit, oui, tu vas nous parler aussi de l'exemple du groupe TAC qui, finalement, et bon, ça, j'ai bien hâte d'en entendre parler, mais tu vas nous donner d'abord quelques petites statistiques. Hein. Évidemment, dans un contexte de pénurie d'emploi, les personnes en situation de handicap peuvent être un atout important pour des entreprises.
Oui, je me suis intéressée cette semaine justement à la pénurie d'emploi dont on entend tant parler. Malheureusement, on n'entend pas beaucoup parler des personnes en situation de handicap qui seraient quand même une solution à ce problème-là. Donc, on parle de 100 000 personnes en situation de handicap qui seraient aptes à travailler au Québec, mais qui ne trouvent pas d'emploi pour eux. Donc, et on parle de 195 000 postes vacants au Québec en 2023. Donc, ce serait quand même une bonne partie du problème qu'on pourrait régler par l'embauche des personnes en situation de handicap. Et on parle de plusieurs 100 000 emplois qui ne sont pas des emplois qui demandent des compétences particulières, donc qui ne demandent pas le diplôme.
Oui.
Donc, les personnes en situation de handicap pourraient rapidement intégrer.
Exact. Et puis bon, ce ne sont pas tous des gens qui n'ont pas d'études non plus. Il faut quand même dire que... et tu en es la preuve. Avec ton doctorat, quand même, tu as fait des études supérieures et puis tu enseignes toi-même, alors, bon, à l'université. Donc, et il y en a bien d'autres comme toi aussi. Alors, ce qui fait que, ben c'est ça. Donc, il y a plus de 100 000, en fait, 100 000 emplois qui ne demandent pas d'études particulières, mais il faut considérer qu'il y en a bien d'autres aussi où les gens pourraient très bien faire l'affaire, des gestionnaires, par exemple, qui seraient très bien, qui sont formés aussi, qui pourraient très bien intégrer certaines entreprises, voilà.
Oui, effectivement, des personnes en situation de handicap là, qui ont étudié dans tous les domaines, bien sûr. Donc, ils sont effectivement, eux aussi, disponibles. Par contre, quand on a des hautes études universitaires, c'est quand même plus facile là, pour une personne en situation de handicap d'entrer sur le marché du travail, quoi qu'on fait face quand même à plusieurs difficultés. Mais c'est surtout des personnes là, qui n'ont pas
d'études particulières.
Qui ont des difficultés à trouver un emploi parce que la discrimination est d'autant plus grande là, pour ces personnes-là, évidemment.
Alors, c'est ça. Donc, il y a des secteurs qui sont plus touchés que d'autres.
Oui, bon, on parle beaucoup des secteurs de la fabrication, des services d'hébergement, de la restauration et du commerce de gros. Donc, comme je disais tout à l'heure, des secteurs que des personnes en situation de handicap pourraient intégrer sans problème. Et puis, étant donné qu'ils proviennent de main-d'œuvre et les secteurs qui sont touchés, ce serait une bonne idée d'intégrer ces personnes-là, puis ça apporte plusieurs avantages.
Mais en fait, qu'est-ce que ça prend pour intéresser des entrepreneurs, des entreprises à intégrer des gens en situation de handicap? Pourtant, on offre des subventions, Élisane.
Oui, on offre de très bonnes subventions pour intégrer des personnes en situation de handicap. On offre des subventions pour le milieu de travail. Donc, s'il y a des adaptations à faire, les adaptations sont majoritairement payées par des subventions gouvernementales et non gouvernementales. Et on offre aussi un soutien au salaire de ces personnes-là. Donc, tout dépendant des situations d'handicap de la personne et de ses limitations, on peut avoir jusqu'à 50 % du salaire de la personne qui est payé par le gouvernement. Donc, ça laisse à l'entreprise 50 % l'autre 50 % du salaire à payer. Donc, c'est très gagnant pour les entreprises de faire appel à ces personnes-là. Dans certains cas, les personnes peuvent faire 100% du travail sans aucun problème. Dans d'autres cas, il faut adapter un petit peu, puis il faut avoir un peu plus de supervision. Mais dans les cas où ça demande plus de supervision, ben il y a une rétribution qui vient avec ça pour être sûr que ce soit gagnant-gagnant. Puis il y a aussi beaucoup d'intervenants qui sont là pour aider à ce que la personne en situation de handicap soit capable d'intégrer le milieu de travail sans problème.
Oui, c'est ça. On verra d'ailleurs tout à l'heure, dans notre deuxième partie d'entrevue, là, on verra aussi comment, on parlera du groupe TAC justement, mais on verra aussi à quel point ça peut être valorisant aussi pour une entreprise, là, finalement, c'est de se donner cette mission-là. C'est vraiment au niveau de l'image, notamment, là, on se préoccupe toujours de notre image, évidemment, mais bon, je veux dire, c'est intéressant, mais aussi, c'est que ça amène également quelque chose peut-être de différent au sein de l'entreprise par rapport à l'aspect solidarité, l'ouverture d'esprit parmi les autres employés.
Oui, effectivement. Puis c'est les employés qui sont très fidèles. Alors, c'est les employés qui s'absentent rarement du travail, qui ne veulent pas s'absenter parce que la plupart du temps, ils aiment bien leur travail. Ils sont contents d'avoir été intégrés au marché du travail. Donc, les études montrent que c'est des gens qui vont s'absenter beaucoup moins du travail et qui vont vraiment donner un effort supplémentaire comparativement à des personnes qui ne sont pas en situation de handicap. Ils sont plus performants au travail. Ils sont plus motivés au travail également. Donc, ouais. Il ne faut pas croire que ces gens-là sont un obstacle du tout à l'entreprise. Au contraire, ce sont de très bons employés qui donnent vraiment leur 110%. Et effectivement, au niveau des collègues, ça peut vraiment changer les choses au niveau d'entreprise, puis au niveau de la relation entre collègues et de la solidarité à l'intérieur.
C'est ça, de l'ouverture, tout ça. Et puis, évidemment, aussi, c'est que on évite que ces gens-là se retrouvent finalement sur l'assistance sociale ou enfin des choses comme ça.
Le gouvernement va donner des subventions très, très, très intéressantes là, pour intégrer ces gens-là au travail parce que, justement, en tous les cas, le gouvernement devra payer pour ces gens-là s'ils ne sont pas intégrés à un milieu de travail, mais ils se retrouvent à la charge du gouvernement. Et ça, évidemment, c'est mauvais pour le gouvernement. Là, ça lui coûte très cher. Mais au-delà de ça, bien, c'est très mauvais aussi pour la personne elle-même là, qui ne peut pas atteindre ses objectifs personnels. Puis il y a personne qui a envie d'être à la charge du gouvernement puis de rester à la maison. Là. Quand tu peux travailler, c'est sûr que tu as le désir de sortir de chez toi puis de trouver un travail qui te donne quelque chose à faire puis
de
faire rencontrer des gens. Là.
De développer ton plein potentiel. Alors, on continue après la pause, Élisane. Alors, tu restes avec nous et puis on se retrouve après. À tout de suite.
À tout de suite.
Aime l'été.
Et oui, de retour pour la deuxième moitié d'émission. On parle d'intégration au travail pour les personnes en situation de handicap avec Élisane Pellerin. Élisane, il y a quand même des gens qui ont compris toute l'importance justement d'ouvrir le marché du travail aux personnes handicapées. Alors, tu vas nous parler du groupe TAC, T-A-Q. Alors, Élisane, on t'a... Bon, est-ce que tu es toujours... des nôtres.
Oui, je suis avec vous.
Parfait,
vous
c'est ça. Ben oui, c'est ça. C'était
okay,
simplement
parfait.
Une question de monter le son. Voilà, je pense en tout cas. Alors voilà, bon, c'est ça, tu m'as entendu là, par exemple, toi.
Hein? Oui,
OK, alors c'est ça, le groupe TAC, T-A-Q. Alors parle-nous-en de cette mission d'abord, de ce groupe.
Le groupe TAC a pour mission d'intégrer les personnes en situation de handicap au travail et justement de favoriser leur plein potentiel. Donc, on parle d'une entreprise... qui a principalement des personnes en situation de handicap comme employés qui sont supervisées par des personnes qui ne sont pas en situation de handicap. Donc, c'est tout un groupe de personnes qui travaillent ensemble sans distinction à savoir s'il y a un handicap ou pas. Donc, tout le monde met la main à la pâte. On parle aussi de différentes situations de handicap. Hein. Il y a des handicaps physiques, aussi des handicaps intellectuels. Et des troubles du spectre de l'autisme, entre autres. Donc, tout le monde est très diversifié hein, par rapport à ses besoins et à ses compétences dans ce groupe-là. Mais le but de ce groupe-là, c'est vraiment d'offrir un emploi aux personnes en situation de handicap et de leur permettre de développer leurs compétences et leurs qualités sur le marché du travail de façon bienveillante.
Oui, c'est ça. On a d'ailleurs une vue, finalement, des statistiques, si on veut, des personnes qui sont en situation de handicap qui, en fait, qui sont employés par des entreprises, là. Oui. Il y a une quarantaine, je pense, d'entreprises au Québec qui accueillent des personnes en situation de handicap.
Oui, il y a effectivement un regroupement là, de qu'on appelle le regroupement des entreprises adaptées du Québec. Donc, on parle de 36 entreprises qui font partie de ce groupe-là et qui, effectivement, vont prendre des personnes en situation de handicap sous leurs ailes. Donc, on parle de 4000 personnes en situation de handicap sur 5300 employés. Donc, presque à la totalité, en fait. Et ce groupe-là d'entreprises ont pour but, justement, de favoriser l'intégration des personnes en situation de handicap et d'en faire aussi la promotion parce qu'ils croient un peu, comme je vous disais tout à l'heure, que ça fait partie de la solution au Québec. Non seulement de la solution au problème de main-d'œuvre, mais comme je disais tout à l'heure, de la solution pour baisser les coûts en termes de santé et de la solution aussi pour une véritable intégration de ces gens-là et pour que ces gens-là soient vraiment acceptés dans la société et non pas mis de côté.
C'est ça. Donc, il faut mettre tout le monde à profit. Et puis, bon, on a beaucoup parlé aussi de la situation des aînés, là, qu'on voulait garder souvent au travail. Mais c'est ça. Mais c'est vrai que cette clientèle-là, on en parle beaucoup moins. Alors, c'est ces gens en situation de handicap. D'ailleurs, il y a des entreprises elles-mêmes qui demandent au gouvernement d'augmenter, si on veut, les subventions ou enfin qui permettent, parce qu'il y a des plafonds, là, le gouvernement donne un peu d'argent, bien sûr, mais il y a des plafonds. Mais là, en fait, on veut augmenter ce plafond.
Oui, il y a entre autres Chocolat Favori, oui, qui est allé au front il y a quelques semaines là, pour dénoncer le fait que le gouvernement mette des plafonds qui sont dans la situation actuelle avec les coûts qui augmentent un peu partout. Les plafonds sont, selon eux, trop bas. Et au-delà du coût des plafonds, on parle aussi de faire la promotion, donc d'en parler de façon plus... plus souvent, hein, parce que comme tu le disais, on parle beaucoup des personnes âgées, on parle très peu des personnes en situation de handicap. C'est oublié, même de la part du gouvernement, on dirait parfois. Donc, ils veulent qu'on ramène ça sur la table, qu'on revoie les subventions à la hausse, qu'on enlève les plafonds de subventions, donc qu'on puisse subventionner à 100% lorsque nécessaire. Et puis, ils demandent qu'on change la mentalité et qu'on mette beaucoup plus d'emphase sur l'intégration de ces personnes-là. Il faut dire que Chocolat Favori est d'ailleurs un des partenaires du groupe TAC, dont je parlais tout à l'heure. Donc, ils font affaire avec le groupe TAC pour leur emballage et leur distribution de matériel. Donc, ils sont très, très impliqués. Et pour la petite histoire, le groupe TAC leur a permis de beaucoup, beaucoup augmenter leur production parce qu'il manquait d'employés. Et on a appelé le groupe TAC, on demandait s'ils pouvaient faire quelque chose pour eux. Et le groupe TAC, avec leurs employés en situation de handicap, leur permet de beaucoup plus envoyer de matériel, d'envoyer beaucoup plus de marchandises. Et donc, leur chiffre d'affaires a beaucoup augmenté grâce à ça.
Tout à fait.
Donc, ils y croient parce que eux-mêmes, ça a été un grand succès pour eux.
Donc, toutes sortes d'entreprises peuvent faire appel à TAC, à ce groupe-là,
oui.
pour développer, évidemment, une espèce de partenariat, et pouvoir peut-être éventuellement embaucher des gens en situation de handicap, bien entendu. Et puis, il y a des mythes à déboulonner, bien sûr, alors, de dire que la productivité est affectée, le niveau de compétence qui n'est pas le même, les adaptations qui sont coûteuses, tout ça, ce sont des mythes, finalement, qu'il faut vraiment déboulonner.
Oui, ben comme je le disais tout à l'heure, hein, les études montrent que ces personnes-là sont des personnes dont l'absentéisme est beaucoup plus bas que des personnes qui ne sont pas en situation de handicap. Dans la plupart des cas, les adaptations sont mineures, donc on parle des adaptations qui se font très bien. Dans les cas où c'est des adaptations qui sont beaucoup plus coûteuses, on a quand même, comme je le disais, des subventions intéressantes. On parle de subventions gouvernementales tout à l'heure qui sont plafonnées, mais il y a aussi des subventions non gouvernementales. Donc, pour quelqu'un qui souhaite avoir une subvention, c'est quand même assez facile d'avoir cette subvention-là et non seulement de les avoir, mais d'avoir quelqu'un qui travaille à les trouver pour nous et qui travaille à l'intégration de la personne en situation de handicap au milieu du travail. On n'est pas tout seul quand on décide de faire ça. Il y a beaucoup de gens qui vont se mettre à la tâche pour s'assurer que la personne qu'on emploie soit tout à fait intégrée et qu'on réponde à tous ses besoins. Là.
Exact. Alors, pour devenir un employeur inclusif, écoutez, allez voir les services du groupe TAQ, TAC. Et merci, Elisane. On se retrouve la semaine prochaine.
Merci. À la semaine prochaine.
Bye-bye.
Bye-bye.
Job. Faut que je fasse mes paiements, amener ma blonde au restaurant, puis checker les numéros gagnants. Un banlieue de moyen job, je vais payer le loyer du mois passé. Je vais brancher le téléphone, les collecteurs vont pouvoir me retrouver. Puis si jamais tu me donnes une job, tu me verras à l'église, à genoux devant le curé. Banlieue, laisse-moi pas tomber. Banlieue de moyen job, commencer en bas de l'échelle. Je peux pire avec les chiffres, puis je sais me servir de ma cervelle. Banlieue de moyen job, puis je te jure que je vais me caser. Je vais me lever tôt tous les matins, puis je t'en promets d'arrêter de chialer. Puis si jamais tu me donnes une job, tu me referas à l'église, à genoux devant le curé. Banlieue, laisse-moi pas tomber. Mon chèque. Puis si jamais tu me donnes une job, tu me verras à l'église, à genoux devant le curé. Banlieue, laisse-moi pas tomber. Banlieue de moyen job, n'importe laquelle ferait mon affaire. N'importe où, n'importe quand, pour me sortir de mon calvaire. Banlieue de moyen job, j'envoie mon CV à Saint-Pierre. Parlez-y de moi si vous voulez un pourcentage sur mon salaire. Puis si jamais tu me donnes une job, tu me verras à l'église, à genoux devant le curé. Mon Dieu, laisse-moi pas tomber. Encore une fois. Puis si jamais tu me refais là à l'église, à genoux devant le curé. Bon Dieu, laisse-moi pas tomber. OK.
Le podcast Bagger from the Boss s'adresse vraiment à un public très, très large. Donc, toutes les personnes qui veulent apprendre, qui veulent s'éduquer, qui sont ready. Donc, nous, c'est pour ça qu'on est là, dans le fond. Fait que c'est vraiment aussi pour les gens qui sont tannés du manque de diversité d'opinion dans les médias traditionnels. Donc, c'est pour ça qu'on est là.
Donc, qu'est-ce que Black Girl from Laval représente? En fait, moi, quand je vois Black Girl from Laval, moi, je vois le sisterhood, je vois des communautés marginalisées qui se mettent de l'avant, qui prennent des initiatives. Moi, je vois un changement qui est tellement nécessaire dans cette société. Moi, je vois de l'espoir beaucoup. Je vois de la relève, puis je vois de l'empowerment. Puis we are all for it.
D'accord. le but de Black Girls from Laval, c'est de donner un micro à des gens qui n'en auraient pas nécessairement tout le temps dans les médias traditionnels. Comme Christelle aime le dire, on n'avait pas notre place à la table, alors on a décidé de créer notre table. Fait que dans le fond, c'est pour ça qu'on s'est dit, hey, on va se mettre ensemble. Puis ce qui est nice avec notre podcast en tant que tel, c'est qu'on est vraiment... On est trois femmes noires, oui, mais on est trois différentes. Fait que directement, au premier regard, tu vois qu'on a des backgrounds différents, des valeurs différentes sur un sujet où les gens pourraient penser que tous les noirs pensent pareil. Ben non!
Bisous, bisous, caca!
Et voilà, c'est ça, Black Girls from Laval, trois jeunes femmes afrodescendantes qui s'animent donc sur les réseaux sociaux, qui veulent donner la parole à des communautés marginalisées, mais qui s'adressent à un public très large. Bonjour les filles!
Hello!
Oh, et là, vous allez me faire le début, enfin, à chaque fois, à chaque émission, à chaque épisode de votre balado. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous commencez?
On dit...
Black!
Non? Ok, attends, je veux dire Oulakou, Touloukou, tout le monde.
Okay,
ah, parce que ça mélange ce nom. Oulakou, Touloukou, tout le monde. Bienvenue à
Black Girls from Laval.
Bon, voilà. Alors, ça donne le ton. Bonjour. Alors, écoutez, vous étiez au ZooFest, récemment. Donc, c'est votre balado qui a été enregistré pour la première fois devant public. Alors, et puis, bon, parlez-nous un peu de votre parcours. D'ailleurs, on va vous présenter l'une et l'autre. Alors, on commence avec Naïla, tiens.
Allô? Notre parcours en général dans la vie de cinéma?
Ben, c'est-à-dire, j'aimerais que vous vous présentiez chacune, là.
Dans le fond, moi, je suis créatrice de contenu, je suis actrice, je fais un peu du stand-up, d'humour de temps en temps, parce qu'en plus de chialer contre toutes les injustices, je fais aussi des blagues, la gang. J'ai un sens de l'humour incroyable. C'est ça, dans le fond, je suis aussi travailleuse du sexe également, donc je fais du contenu exclusif. Pour les gens qui ont des sous.
Voilà. Et puis, c'est ça. Donc, ça, c'est un aspect, oui, bien sûr, de votre travail. Mais effectivement, vous êtes quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche, en tout cas, chose certaine, et qui aime bien rigoler. Et puis, ben, c'est ça. Donc, l'humour au service, évidemment, d'une mission aussi que vous vous êtes donnée. Et toi, bon, ben, Lotto The Ray, qui, en fait, c'est... Comment on prononce ton nom? Parce qu'en fait, ce sont des... vous avez des noms d'emprunt, là, bien entendu.
OK, pas pire. C'est Lotto Ray. Fait que juste, pas de pause, juste Lotto Ray, straight. Moi, d'un fois, je suis animatrice. Fait que j'anime n'importe quoi, là. En tout, en fait. Fait que dès qu'il y a un événement, j'anime les événements. Je peux animer votre mariage, je peux animer votre baby shower, j'anime dans les clubs, dans les festivals. Je fais aussi des interviews, fait que, comme qu'est-ce que vous faites en ce moment. Fait que je fais des interviews avec des personnalités publiques, des artistes, whatsoever. Je fais aussi des choses chroniqueuses dans les galas. Donc, je fais des entrevues aussi sur les tapis rouges, noirs, whatsoever. Et bon, j'essaie d'être une YouTubeuse des fois, mais attends pas quand j'ai le temps.
Ouais, c'est ça.
Puis oui.
Bon, alors, parfait. Puis, Christelle.
Exactement. Donc, Christelle, on m'appelle Joko Christie sur les internets. c'est ça. Moi, je suis en com, j'étudie là-dedans, puis je travaille là-dedans, puis sinon aussi. Je fais aussi une partie de médias sociaux, que genre, je fais des petites vidéos pour aborder les sujets, mais comme, tu sais, genre, à la blague, parce que, tu sais, c'est plus friendly, puis les gens sont plus à l'écoute quand, tu sais, ils se sentent pas nécessairement... attaquer, on va dire ça comme ça. Fait que, tu sais, genre, j'aborde des sujets comme je présente un peu des affaires qu'en tant que minorité, moi, je vais vivre. Puis je sais que d'autres personnes comme moi vont vivre aussi. Puis, tu sais, j'apprends les gens à normaliser la différence. Puis, tu sais, à voir que comme moi, ça fait pas mal. Ouais. C'est pas méchant.
Non, c'est ça. Alors, vous êtes jeune, bien sûr. On l'établit d'emblée, d'entrée de jeu. Et vous représentez, bien sûr, votre communauté. Mais en fait, vous êtes aussi à l'image des jeunes d'aujourd'hui, finalement.
Bien.
Oui, nous, je trouve qu'on... Justement, on est noir, oui, mais on parle pas juste aux noirs, on parle pas juste pour les noirs. On parle à tout le monde qui veut un Québec plus diversifié, qui veut entendre des voix différentes. Parce que, je veux pas... Personne... En tout cas, j'ai l'impression que personne aime ça, juste d'être dans une écho-chambre puis on entend juste notre propre son, notre propre voix. Fait que c'est le fun de pouvoir entendre des gens différents raconter leurs histoires.
Oui, c'est ça.
Et on se sent moins isolé aussi.
T'sais. Exactement. Est-ce que, bon, la réponse par rapport à ce que vous faites, d'abord, vous êtes suivi quand même par des milliers de personnes là, de votre communauté, mais effectivement, vous vous adressez à un public très large. Alors, bon, est-ce que vous avez, comment ça s'est passé, là, votre rencontre, au fond, et puis cette décision de vous engager et de créer ce balado, ce podcast, en fait, comme, et comme vous l'appelez. Et puis, bon, c'est ça, cette rencontre, vous vous connaissiez déjà?
Ben, en fait, tout a commencé... En fait, oui, on se connaissait déjà, moi puis Naïla. Ça a vraiment parti en 2020, justement, avec tout ce qui est arrivé, avec la présence active du mouvement Black Lives Matter et tout. Puis, tu sais, moi, je me rappelle, j'étais chez moi dans mon salon, puis j'étais comme, OK, genre, je me sens pas assez comme active dans le mouvement parce que, veux pas, c'est ma communauté. C'est les gens qui me ressemblent, qui sont en train de vivre quelque chose. Puis, moi, je me dis, OK, c'est quoi ma part de responsabilité? Qu'est-ce que je peux faire? Fait que là, tu sais, j'ai contacté Naïla, justement, puis, tu sais, là, on s'est rencontrés la semaine d'après, puis on a commencé direct. Tu sais, ça s'est fait vraiment rapidement parce que, tu sais, des fois, on prend tellement le temps de réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait faire qu'on prend pas action. Puis, nous, on était comme vraiment dans la proactivité. Fait que là, on a commencé le podcast comme ça. Puis après ça, genre, épisode 2, on reçoit Low to the Ray. Puis là, genre, comme ça a été genre une chimie automatique. On dirait qu'on était nés dans le même panier. Fait que là, ça s'est fait juste naturellement. Puis on a juste commencé, puis on a continué comme ça.
C'est ça, parce qu'en fait, vous êtes de Laval. C'est ce qu'on
dit.
Oui. Donc, évidemment, et toutes ces, en fait, tout ce qui s'est passé dans les dernières années, tout ce qui touchait la communauté noire, bien sûr, ça vous a interpellé. Bien sûr, peut-être plus marqué encore aux États-Unis, forcément. Mm-hmm. Mais donc, dans votre réalité lavalloise, malgré tout, c'est venu vous chercher et vous avez senti le besoin de faire quelque chose. De là, la création de ce balado. Bon, vous le faites avec humour. Hein? Vous abordez toutes sortes de sujets sans tabou à part ça, hein, c'est sûr?
Oui, exactement.
Bon, vous recevez quel genre de personnes finalement? Parce que, bon, d'abord, vous dites, c'était une voie, vous vouliez prendre une place, mettre, enfin, il n'y avait pas, vous ne vous sentiez pas invité à la même table que tout le monde dans les médias traditionnels. Mm-hmm. En fait, qu'est-ce que... Et pourtant, on a l'impression que les médias traditionnels, quand même... bon, s'investissent quand même de plus en plus auprès de la communauté noire, que ce soit aussi auprès des communautés autochtones. Finalement, c'est une réalité que l'on retrouve aussi beaucoup dans les médias traditionnels maintenant. Alors, pourtant, on en parle beaucoup. Mais qu'est-ce que vous pourriez dire par rapport aux médias traditionnels? Est-ce que vous êtes encore convaincu que vous n'avez pas votre place?
Mais c'est pas... La fin, c'est que je pense pas qu'on n'a pas notre place. On a notre place et ils savent qu'on a notre place. Et c'est justement ça, je pense, qui est le problème. Tout le monde sait qu'on a notre place parce qu'on vit chaque jour dans ce monde-là. Chaque jour, on voit les personnes de la diversité. Donc, les voir à l'épicerie et voir de la télé ou voir de la radio, je vois pas c'est quoi qui est différent, en fait, tu comprends? C'est vraiment juste de pouvoir mettre, justement, plus de personnes de la diversité. Oui, ils essayent et tout, mais essayer, c'est pas assez, je trouve. C'est vraiment de le mettre, puis... De rester constant par rapport à ça, pas juste dire « Ah ouais, bon, on prend au moins une noire, une asiatique, juste pour dire, puis comme rester avec ça. » C'est vraiment de comme rester constant par rapport à ça, puis pas juste essayer de remplir un trou, en fait.
Puis si je peux rajouter quelque chose, c'est au niveau de la représentation aussi. T'sais, oui, il va y avoir certaines personnes qui vont être de la diversité, certaines personnes noires qui vont être dans les médias puis dans les milieux, mais comme, c'est comme si qu'il y a genre une élite de 15 noirs qui représente tout le Québec. Puis après ça, au niveau de la représentation, moi personnellement, qu'on prenne des personnes qui sont dans les médias, je prends comme exemple, mettons Nadé, on a déjà reçu comme invité. T'sais, on a déjà eu la discussion, puis elle le sait, elle se dit pas qu'elle est la représentante des noirs. Parce qu'au final, au niveau de la communauté, on a tellement une pluralité, une diversité au-delà de la diversité de couleurs. Là. Mm-hmm. Fait que tu sais, c'est comme comment qu'on peut représenter, comment qu'on peut normaliser le vécu des personnes noires, le vécu des personnes de couleur en général. Tu sais, ça n'en prend plus que quelques-uns. Parce qu'à partir du moment qu'on doit se poser la question, mais est-ce qu'il y en a assez? C'est comme pas normal. Parce que comme pourquoi qu'on doit se poser la question si c'est comme... naturel, puis que ça se fait tout seul.
Mm-hmm. J'ai aussi l'impression que quand il y a de la diversité qu'ils essayent, comme on dit, c'est qu'il y a comme un genre de moule pour ces personnes-là. Donc, quand tu sors de ce moule, t'es pas vraiment accepté ou bien vu. Exemple, tu sais, souvent, quand j'ai eu des contrats, que j'ai eu des rôles, il fallait un peu que je m'efface un peu. Tu comprends? Je peux être noire, mais je peux pas être moi. Donc, malheureusement, c'est ça. J'aimerais ça qu'on puisse voir la diversité dans la diversité, que les gens puissent être eux avec leur accent sans le changer, avec leur ton de voix sans changer, avec les mots qu'ils utilisent sans changer. Au pire, on mettra des sous-titres en dessous, là. C'est pas grave si les gens parle un français avec un accent différent. Il y a, ouais. y a personne qui a un accent pareil. Là, si tu vois l'accent de Montréal,
non,
l'accent
comprends.
De l'accent Saint-Jean, là.
Non,
c'est il y a
sûr.
Personne qui a un accent pareil.
D'ailleurs, ben, vous utilisez beaucoup, ben, comme les jeunes, souvent, là, bon, le franglais, entre autres, hein, c'est quelque chose que vous mélangez beaucoup. Alors, l'enjeu de la langue française, c'est pas quelque chose nécessairement qui... bon, vous êtes issu quand même d'une communauté francophone aussi, bon, mais alors, c'est pas un enjeu qui vous préoccupe non plus tant que ça, ou ça fait partie de l'évolution pour vous?
Mais c'est pas que c'est pas, ça ne nous préoccupe pas, mais c'est comme... C'est pas parce qu'on glisse 2-3 mots en anglais qu'on va perdre la langue française. Comme eux, ils exagèrent. C'est comme sinon, changer, enlever la compagnie McDonald's, enlever la compagnie Subway, enlever la compagnie Tim Hortons, tu sais, enlever ces affaires-là aussi si vous voulez vraiment garder français, 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 français. C'est pas 2-3 mots, 2-3 slangs en anglais qui va faire que comme vous allez perdre la langue.
Parce que je suis certaine que vous ne manquez pas de vocabulaire français.
Ben, c'est ça. Au-delà de ça aussi, c'est mettons, si on parle anglais puis qu'on a des expressions anglophones, c'est parce que pendant un moment, quand on voulait écouter des affaires qui nous rejoignaient, on n'était pas là. Mm-hmm. Fait que tu veux pas, c'est la conséquence du manque de représentation dans les médias parce que, tu sais, moi, genre, je me rappelle, je cherchais du monde qui me ressemblait pour comme écouter des affaires que comme, pour des gens de mon âge, qui peuvent m'intéresser. Mais tu sais, c'est comme, s'il y a un choix pour tous les groupes d'âge, tout, si à un moment donné, c'est difficile. Puis nous, on veut pas, on va pas rester là à attendre après les médias québécois. On va juste comme s'étendre. C'est pour ça que le monde, moi, genre, j'écoute plus Netflix que genre, je vais écouter les chaînes québécoises parce que je me suis habituée à ne pas avoir écouté ça parce que quand que j'ai essayé, j'étais pas là. Puis moi, genre, je sais que je suis pas nécessairement le public cible si je me fie à qu'est-ce que je vois parce que c'est pas à moi que je me sens pas adressée. Fait que ça, après ça, j'allais chercher comme justement un contenu qui s'adresse à moi, que moi, je peux genre me sentir interpellée de près ou de loin. Mais tu sais, au moins, genre, comme même une émission que je vois d'autres diversités qui sont pas noires, moi, je me sens déjà plus acceptée parce que je suis comme, tu sais, genre, comme, ils ont une réalité, puis certaines affaires, que ça sera pas exactement la même chose. Mais j'aime sentir interpellée quand même par leur vécu, parce que, tu sais, on vit des oppressions qui peuvent se rencontrer.
Oui, c'est ça. Mais au Québec, comme tel, est-ce que vous sentez quand même que, par rapport à d'autres endroits, il y a quand même cette ouverture qui est beaucoup plus grande, ou enfin, bon, d'ailleurs, il y a quand même une mixité, là. Je veux dire, vous ne vivez pas en vase clos, forcément, vous avez des amis blancs, enfin, vous avez des amis probablement... hispanophone, enfin bref, c'est vraiment ce qu'on retrouve. Ouais, c'est ça ici. Mm-hmm. C'est ça qui est intéressant.
J'ai l'impression que les humains en tant que tels, c'est quand tu les regardes en tant que personnes individuelles, ils ont une volonté d'être ouverts d'esprit, puis ils sont ouverts jusqu'au plus loin de leur connaissance. Mais que le problème, c'est de pouvoir accepter qu'on fait une erreur. C'est ça que je trouve qui est difficile au Québec. Mm-hmm. Donc, ça se peut que tu me fasses une microagression sans faire exprès. Puis moi, je sais que tu fais pas exprès, mais je vais te l'expliquer pour plus que tu la refasses. Sauf qu'après ça, ils deviennent tout de suite sur la défensive et enragés et ils veulent t'assassiner. Je me suis fait supprimer comme 10 comptes Instagram parce que je suis comme « Allô les Blancs! » Puis là, je raconte des affaires. Tu sais, ce serait le fun que vous arrêtez de toucher les cheveux des gens sans leur permission. Et là, ils sont vexés parce que j'ai dit blanc. Oui, mais le problème, c'est pas que. On sait que t'es blanc. Tu vois que je suis blanc, je vois que t'es blanc. Oui, c'est pas moi qui est blanche, c'est toi qui est blanche. On le voit, puis c'est pas une oppression d'être blanche. Je te demande juste de pas toucher mes cheveux sans mon consentement. Et là, ça devient une guerre de « mais là, on peut plus rien faire, on peut plus rien dire ». Mais non, mais tu peux faire beaucoup de choses sur ton propre corps. Touche tes propres cheveux. Fait que je pense que c'est là que les gens se referment. C'est quand tu leur dis « hey, voici une erreur que t'as fait », là, ils ont l'impression que c'est la plus grande attaque au monde. Fait que moi, c'est ça que j'essaierais de changer.
De toute façon, on peut le vivre aussi dans nos relations hommes-femmes, ou enfin, c'est à l'infini, bien sûr. Dans votre balado, vous avez, vous privilégiez probablement, enfin, plus quoi, des influenceurs aussi, des gens qui sont présents sur les réseaux sociaux. Donc, c'est une culture aussi qui appartient à des gens de votre âge en même temps.
Mais tu sais, on a reçu autant des invités qui sont des personnalités publiques qu'on a reçu des personnes qui ne sont pas des personnalités publiques aussi, parce que nous, notre idée, c'est d'un des personnalités publiques qu'on va avoir dans notre podcast, ça va être pour mettre de l'avant des aspects que eux, ils seront même pas portés à parler au préalable. Mettons que on reçoit Adamo que tout le monde reçoit pour parler d'occupation double, mais après ça qu'on parle d'un autre enjeu que comme mettons de masculinité toxique avec lui. Fait que tu sais, pas, c'est comme on sait pas c'est quoi son opinion par rapport à ça. Tu sais, on les voit puis on les aime, mais on connaît pas nécessairement leur réflexion, leur façon de penser. Puis nous, justement, tu sais, on veut montrer que comme tu sais, il y a plus profond que juste la surface aussi. Puis tu sais, on veut donner genre la chance aux gens de comme voir que c'est juste parce que les gens n'en parlent pas de leur affaire, ça ne veut pas dire qu'ils ne le vivent pas. T'sais.
C'est exactement. Mais en fait, et puis vous pouvez aborder évidemment plein de sujets légers. Évidemment, le but, c'est aussi l'humour et c'est votre marque de commerce au fond. C'est vraiment, vous voulez vous produire, enfin être considérée en même temps comme des femmes humoristes jusqu'à un certain point. Ben, c'est ça. Mais donc, on peut voir, vous avez quand même beaucoup travaillé. Là. Vous avez quand même pas mal de balados à votre actif. Là. Ouais. Il y en a quoi, une trentaine, à peu près 30?
Non, plus encore.
Ah, plus? Oh là là.
On est rendu à comme 70.
Ouais. Ah, d'accord.
70.
Bon, ben alors, c'est merveilleux quand même. Ça veut dire que, bon, vous êtes entendu, vous êtes écouté et puis vous êtes suivi par bon nombre de gens. Alors, vraiment, ben, c'est à découvrir. Écoutez, vous avez gagné d'ailleurs un prix au Gala Dynastie hein, qui récompense évidemment tout ce qui se fait pour la communauté noire également. Alors, vraiment, donc, ça vous a un peu encouragé, ça vous a galvanisé en même temps, hein, c'est ça? Vous manquez pas d'énergie, il faut dire.
Mais il en faut, tu sais, parce que j'en parle de sujets qui rendent les gens inconfortables. Puis on le sait déjà qu'on va créer un malaise. Fait que t'sais, après ça, c'est genre... Tu sais, des fois, on pourrait en pleurer, mais on va en rire parce que à un moment donné,
ça va être long longtemps.
C'est genre ridicule. On m'a demandé déjà, genre, quelqu'un voulait toucher mes cheveux parce qu'il elle est coiffeuse. Puis je suis comme, OK, fait que là, tu te promènes dans la rue à toucher la tête des gens parce que...
Ouais, je comprends.
Tu sais, c'est comme...
Alors, toutes sortes de sujets abordés sans gêne, sans tabou, et vous êtes absolument décomplexé, évidemment. Ben, Naïla, d'ailleurs, tu te plais à dire toujours que tu es la grosse qui fait des vidéos. Alors, c'est toi qui le dis. Bon, alors, alors très drôle. Et puis, vous donnez des noms, enfin, c'est peu importe, mais enfin, vous avez du plaisir vraiment à le faire ensemble, ça paraît. Alors, ben, bravo, et puis continuez votre travail.
Merci! Est-ce qu'on finit comme on finit d'habitude?
Allez-y!
Bisous, bisous, car!
Au revoir! Eh bien, voilà, je remercie Aya, Jennifer Ando pour la recherche, ainsi que Nicolas Wartman à la mise en onde et au choix musical. Et ici, Chantal Lavoie, je vous souhaite une excellente journée. C'était M l'été et on se retrouve demain, 27 juillet, demain. Et puis, on sera là entre midi et 13 heures.
Après la